J'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît, pour remettre ces moments de la parole de Dieu. Seigneur, notre Père céleste, tu places devant nous ta parole et quel privilège de la connaître, quel privilège de pouvoir la méditer, l'étudier, la mémoriser et apprendre de toi. Alors on se cache derrière la croix pour que, Seigneur, ce soit toi qui soit vu, qui soit entendu, qui soit reconnu comme sauveur, comme Seigneur. Merci de disposer nos cœurs à ne pas être simplement des auditeurs oublieux, mais à mettre ta parole en pratique afin de t'honorer, afin de respecter qui tu es, notre Dieu, et ce que tu as fait dans nos vies au travers de la personne de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, comme le psalmiste disait, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me réjouis de tes commandements. » Et Seigneur, nous avons ce privilège en toute liberté de nous adresser au Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni variation de changement. Nous avons la liberté de nous adresser à Dieu le Père au travers de Jésus-Christ, parce que le sang a été versé à la croix afin que nous ayons un accès libre devant toi. Ô Père, nous nous inclinons, nous te bénissons et nous te rendons grâce au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prendre la parole de Dieu en Jean chapitre 8 et verset 31. Nous continuons notre série sur vivre l'évangile, qui est le thème de cette année. Et nous avons déjà regardé ce que c'est que se consacrer au Seigneur, renoncer à soi-même, se charger de sa croix, suivre le Seigneur. Et nous sommes maintenant dans l'idée d'être un disciple et de demeurer dans la parole. Et Jésus a dit en Jean 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, le Seigneur continue en disant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est un passage clé qui nous montre l'importance de demeurer dans la parole et ainsi d'être affranchi, de connaître la vérité. Jésus en Jean 17 a dit, ta parole est la vérité, et puis d'être affranchi par cette vérité. On a regardé ensemble un petit peu ce que nous allons étudier en ce qui concerne demeurer dans la parole. Tout d'abord, pourquoi demeurer dans la parole, et ensuite, comment d'abord et pourquoi demeurer dans la parole de Dieu. On a déjà regardé ensemble rapidement ce que c'est que de mémoriser, étudier, méditer la parole de Dieu, etc. Et puis on a mis l'accent dimanche dernier sur ce qu'est mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y a toujours le danger d'écouter la parole ou même de la lire et de ne pas écouter Dieu et de ne pas mettre cette parole en pratique et finalement par des faux raisonnements de se tromper soi-même alors que Dieu nous parle. Nous, parfois, tardons à lui obéir. On a vu en rappel, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ce que c'est que de mettre la parole en pratique. Alors, on a vu que Dieu veut qu'on mette cette parole au centre de nos vies. Et le schéma ici montre comment mettre la parole de Dieu dans les domaines qui font notre vie, la vie de couple, la vie de famille, la vie d'église, la vie sociale. Alors la vie de couple, c'est la relation mari et femme, relation parent-enfant, la vie de famille, la vie d'église, tout ce qui a à faire avec le ministère, l'amour fraternel, ce qu'on appelle koinonia, le soutien les uns des autres avec l'expression les uns les autres qui est abondante dans les Écritures, et la vie sociale qui inclut le témoignage, le respect des autorités, la soumission aux autorités, le bon rapport entre employés, employeurs, employeurs, employés, dans le travail, les études. Comment on peut consacrer son temps, ses loisirs, son argent, aussi choisir ses amis, la façon avec laquelle Dieu veut que l'on fréquente et aussi la façon avec laquelle on doit aborder le sujet de la sexualité, notamment au sein du couple, mais aussi dans les fréquentations. En fait, le schéma ici a pour but de développer en nous une pensée christocentrique, biblocentrique, afin que notre vie soit imprégnée de la vérité, pas simplement de connaître la vérité, mais de l'intégrer dans nos vies pratiques de tous les jours, afin ainsi de montrer qu'on est en train d'obéir au Seigneur. Alors le défi, on a terminé avec ce défi quelque part, évidemment, est-ce que je connais la parole de Dieu? Est-ce que je la médite? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je m'y soumets? Et est-ce que je cherche à développer dans ma vie une pensée, une vie christocentrique, biblocentrique? On va regarder encore ce matin le troisième aspect qui est croire en ses promesses, donc la foi. Vous savez, j'ai entendu un jour un prédicateur, et ça m'a personnellement très repris, en disant qu'il y avait un péché qui n'était pas souvent dénoncé dans l'Église. Ah, l'incrédulité. L'incrédulité. Reconnaissons qu'il nous arrive de manquer de foi. Nous croyons beaucoup de choses, mais est-ce que nous croyons en un Dieu de l'impossible? Et c'est ce à quoi Dieu nous invite, à croire de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Alors, je vais faire un rappel de base, mais c'est bon de se rappeler le principe de la foi. Si on regarde, par exemple, le verset Jean 3,16, d'ailleurs, on en a parlé hier soir un petit peu, sur ce principe-là, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset nous apprend que Dieu est amour. Le verset nous apprend que Dieu a envoyé son Fils unique. Le verset nous apprend que la façon d'avoir la vie éternelle, en étant averti qu'il y a une perdition éternelle, c'est de croire. Et le résultat, par la foi, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc le principe de la foi, c'est de s'appuyer sur une promesse, la promesse de la parole de Dieu, et il y en a des centaines, n'est-ce pas, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, d'y fixer ses regards, de s'y attacher, c'est ce que je dois faire, avoir la foi, et le résultat de la foi, c'est toujours lié à une promesse. Et ici, c'est la vie éternelle. Par exemple, la Bible dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si je m'appuie sur ce que Dieu me demande et je me laisse remplir du Saint-Esprit, alors je suis amené à vivre par l'esprit et non pas par la chair. Maintenant, notre foi est souvent testée, éprouvée. Et parfois, nous confondons la foi et la présomption. Un des aspects du ministère pastoral, et je pense dans l'Église, c'est de croire en la guérison de Dieu. Nous croyons que Dieu guérit, nous croyons en l'onction d'huile, nous croyons que Dieu peut guérir. Je crois qu'il n'y a aucun doute parmi nous, si vous êtes un croyant, que Dieu a la puissance de guérir. On n'a aucun doute de cela. Et nous prions pour des personnes, et parfois Dieu guérit, parfois il ne guérit pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu foi en Dieu capable de guérir. Mais Dieu reste souverain dans le fait qu'il guérit ou qu'il ne guérit pas. La preuve, Paul lui-même, dans une épreuve, alors qu'il avait une écharpe dans la chair, une épreuve physique ou même peut-être spirituelle, selon les commentateurs de ce passage en 2 Corinthiens, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » L'apôtre Paul, lui-même, qui avait guéri. Donc, nous devons savoir ce qui est la foi, de ce qui est peut-être la présomption, tout en croyant que Dieu écoute la prière, mais il est souverain dans la façon avec laquelle il répond. Des fois, il donne un feu vert, des fois, il donne un feu orange, et des fois, il donne un feu rouge. Et nous devons accepter les limites de notre compréhension et avoir confiance malgré tout en un Dieu tout-puissant. Dieu est amour, Dieu peut guérir, mais nous sommes dépendants de lui. Mais nous avons toujours besoin d'avoir la foi que Dieu peut guérir. Maintenant, il y a d'autres moments dans nos vies où nous demandons à Dieu et nous confondons sa volonté, ou notre volonté avec la sienne. Et nous nous trompons tout en étant très sincères. Mais on peut être sincère et dans l'erreur, sans le savoir. Et j'ai voulu illustrer cela par un petit schéma qui va peut-être vous faire sourire, la différence entre la foi et la présomption. Voilà, ayant vécu au Canada, vous comprenez pourquoi l'illustration a été choisie. L'idée ici, quelqu'un se présente devant un panneau, il a envie de marcher sur la glace, c'est pourtant écrit « glace mince », et il dit « je sais que je peux passer parce que j'ai beaucoup de foi ». Il a une grande quantité de foi. Le problème, c'est que l'objet de sa foi est fragile. Il y est à la minceur de la glace. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va traverser jusqu'à ce que la glace se brise. Et il va dire, pourtant, j'avais une grande foi. Le problème, c'est que l'objet de sa foi n'était pas le vrai fondement d'une vraie foi. Il y a peut-être celui qui s'approche de la glace, qui voit pas de danger, glace épaisse, qui dit, j'ai une petite foi, mais je vais essayer. Alors, soyons assez humbles pour se présenter devant Dieu et de s'appuyer surtout sur ses promesses, reconnaissant que nous sommes faibles et que parfois notre foi est faible, mais que Dieu a des promesses extraordinaires. Une des promesses les plus merveilleuses, je pense, qui touchent nos vies, c'est que Jésus a dit, « Nul ne les ravira de ma main ». Et dans les moments difficiles, parfois on peut penser, c'est une des ruses du diable, n'est-ce pas, que Dieu ne nous aime plus ou qu'il nous a abandonnés. Mais Dieu reste Dieu. Et le salut reste le salut. Et une fois qu'on est sauvé en Christ, on est lié, scellé du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Il donne toute une liste, et même pas nous-mêmes. C'est une assurance extraordinaire. Maintenant, nous devons vivre la vie chrétienne avec humilité, reconnaître que nous avons des faiblesses, dépendre du Seigneur et exercer notre foi dans la mesure de la compréhension de nos promesses. Je me souviens ici, ça me vient à l'esprit, cette anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y avait une jeune fille qui n'est plus dans notre église maintenant, que nous avons beaucoup appréciée. Elle est partie dans une autre ville travailler. Pour des raisons donc de travail, elle s'est déplacée. Et son papa est venu ici et prier pour que Dieu le délivre du cancer. Il avait une tumeur dans la gencive et finalement, il ne voulait pas se faire opérer. Il fallait se faire opérer, faire une greffe, etc. Il a tellement tardé, tout en croyant que Dieu allait le guérir, que le pauvre homme, tout en étant sincère, est mort plus tard du cancer. Il avait une chance que le Seigneur lui donnait au travers d'un chirurgien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer sa foi. Mais nous devons être sûrs que notre foi est basée sur une révélation de Dieu. Ne pas tenter Dieu, ne pas être présomptueux, tout en croyant de tout notre cœur que notre Dieu nous aime et qu'il trouve bon qu'on exerce notre foi. Donc, il y a une différence entre la foi et la présomption. Une chose est certaine, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu, à voir les commandements de Dieu et toutes ses promesses. Charles Studd, un missionnaire extraordinaire, a dit qu'il soulignait dans sa Bible toutes les promesses de Dieu et il s'appuyait tous les jours sur les promesses de son grand Dieu. Si nous avons une petite foi, nous avons un grand Dieu, sa parole est extraordinaire, remplie de promesses et notre seul refuge. Bien-aimé, c'est de nous confier en l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la foi ? C'est une bonne question. Demeurer dans la parole, ça demande la foi. Parce que si on peut lire la Bible de façon intellectuelle, mais si on ne la croit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est qu'à un moment donné, notre connaissance intellectuelle peut devenir une vraie joie et expérience si nous engageons notre cœur, notre foi dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc, qu'est-ce que la foi ? Je me propose ce matin, Dieu voulant, de regarder avec vous ce qu'est la définition de la foi, son importance, on va survoler cela, sinon on pourrait s'attarder pour faire un message sur chaque point, la source de la foi, les résultats de la foi, et nous regarderons aussi ensemble comment est-ce que la foi grandit. J'espère que vous avez encore quelques forces après cette belle soirée d'hier soir, et que vos yeux ne seront pas trop appesantis, et sinon, on va vous passer des allumettes pour vous garder éveillé, et j'espère que vous allez suivre ce merveilleux sujet qu'est la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'on ne peut pas lui être agréable. Donc, ayons foi en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, ayez foi en moi et en Dieu mon Père. Qu'est-ce que la foi ? Alors, on va définir cela. Excusez si je vais un peu vite, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés d'un certain survol, mais je voudrais aboutir essentiellement au cœur du message qui est comment est-ce que la foi grandit dans nos vies et dans nos expériences de vie avec le Seigneur. Alors le mot croire signifie avoir confiance, le mot foi vient d'un mot grec qui peut être traduit aussi par fidélité. Par exemple, lorsqu'il est traduit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Et à la fin, il est écrit la fidélité. Mais on pourrait le traduire par le mot foi. En fait, la foi touche à la fois notre intellect, nos émotions, notre volonté. C'est très intéressant de lire le livre d'Alfred Kuhn, Il faut naître de nouveau, ou Il faut que vous naissiez de nouveau. Il raconte toute une série de conversions. Il y a ceux qui sont touchés par l'intellect, qui se convertissent parce que leur intelligence est renouvelée par la vérité et ils se donnent au Seigneur. Il y a ceux qui font une expérience extraordinairement, émotionnellement sensible et finalement mue par la présence de Jésus-Christ. Ils sont dans l'adoration et ils découvrent la présence de Jésus, ils sont sauvés. Il y a ceux qui exercent la volonté, il faut les trois choses certainement dans la conversion, c'est notre part, mais Dieu touche nos cœurs par son esprit. Et notre foi a à faire avec l'intellect, les émotions et la volonté, ce qui est normal, puisque Dieu nous a fait avec une intelligence, avec des émotions, une volonté. Donc c'est normal que tout notre être va être touché dans le domaine de la foi. Un des versets clés qui n'est pas une vraie définition étymologique de la foi, vous comprenez, mais une façon, la nature de la foi, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. » Jacques dit dans son premier chapitre que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, mais qu'il ne doute pas. Alors le danger de la foi, c'est le doute, c'est l'inverse. C'est la gangrène du cœur humain incrédule, adamique, qu'on a hérité. C'est douter de Dieu. La foi s'empare des promesses de Dieu, les croit de tout son cœur et tient ferme malgré peut-être les apparences opposées. Donc la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Nous sommes remplis d'amour, de foi et d'espérance et nous nous réjouissons du retour du Seigneur Jésus. Nous vivons en espérance, même si on n'a pas vu le Seigneur. Déjà, même si on n'a pas vu le ciel, déjà on se réjouit d'être en route pour le ciel. Ça, c'est la foi. C'est dans l'expérience spirituelle invisible, mais tellement palpable parce que Dieu a transformé nos vies par la régénération et nous sommes maintenant remplis d'espérance, d'amour et de foi. Et c'est ce que nous chantons. Alors, nous allons regarder rapidement l'importance de la foi. Dans quel domaine la foi est-elle si importante ? Mais tout simplement dans tous les domaines de notre vie. Alors, il y a une sélection ici de versets dans lesquels il y a toujours le mot « foi ». Je ne peux pas vous lire tous les versets pour des raisons de temps, mais c'est une petite étude, pas exhaustive, mais quand même assez complète. Tout d'abord, la Bible dit que la foi est nécessaire pour être sauvé. C'est le bon sens, n'est-ce pas ? On ne peut pas être sauvé sans avoir la foi en Dieu. On sait qu'il y a un côté divin, un côté humain, on en parlera pour la foi. Mais on ne peut pas être sauvé sans la foi. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la Bible dit que c'est par la foi qu'on est enrichi par l'Esprit. La Bible dit qu'on est sanctifié par la foi, même si c'est évidemment le rôle du Saint-Esprit. Mais on est sanctifié par la foi. On est aussi gardé par la foi. On est affermi par la foi. Et on est guéri par la foi. Et ensuite, la Bible dit qu'on marche par la foi. La vie chrétienne, c'est une marche par la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est la foi aussi pour surmonter les difficultés. Qui n'a pas de difficultés dans sa vie? C'est une foi qui plaît à Dieu. C'est une foi aussi qui permet à persévérer et puis à aider les autres. Alors évidemment, on pourrait compléter beaucoup d'aspects, mais c'est une sélection de versets dans lesquels il y a toujours le mot « foi », dont être sauvé, être enrichi par l'Esprit, être sanctifié, être gardé, être affermi, être guéri, marcher par la foi, surmonter les difficultés, plaire à Dieu, persévérer, aider les autres. Et ce n'est qu'une partie, évidemment, du programme de Dieu pour marcher par la foi. Alors, peut-être la question suivante, c'est qu'est-ce que la foi ? D'où vient la foi ? Quelle est sa source ? C'est comme les maths, vous savez. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai eu la bosse des maths. Puis d'autres se plaignent en disant, oh là là, moi, j'ai vraiment pas la bosse des maths. Récemment, j'ai regardé à la télévision, pendant les annonces, notre ministre de l'Éducation nationale qui veut transformer l'éducation, enlever les notes. Alors, vous êtes pour ou contre ? Je ne sais pas, ce n'est pas le débat de ce matin. Mais on veut apprendre aux enfants à passer la pilule des maths. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est très difficile, les maths. Donc, par toute espèce de moyens, de tablettes, de jeux, voilà. Alors, ce qu'ils disent, moi, j'ai la bosse des maths, et d'autres disent, moi, je ne l'ai pas. C'est un peu pareil pour la foi. On dirait qu'il y a des gens qui disent, toi, tu as la chance, tu as la foi. Moi, je n'ai pas la foi. Alors, on va regarder le côté divin et le côté humain, la responsabilité divine et la responsabilité humaine. Tout d'abord, la Bible dit que c'est Jésus qui donne la foi. Jésus est celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Ensuite, on peut voir que la foi est un don de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Non seulement la foi est un don qui vient du Seigneur, mais il y a une mesure de foi. C'est extraordinaire de voir, même dans l'église locale, comment certains frères et sœurs ont une mesure de foi dans tel ou tel domaine plus développée qu'un autre. Pourquoi ? Parce que c'est la répartition quelque part du Seigneur. Et je crois aussi qu'il y a évidemment le don de la foi qui est donné par l'Esprit Saint. En 1 Corinthiens 12:9, à un autre est donné la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Donc on voit que l'Esprit Saint aussi donne ce don spirituel qu'est la foi. Et comme j'ai déjà mentionné en Galates 5, la foi est aussi synonyme de fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On peut se poser la question, est-ce que c'est la grâce qui est suffisante et Dieu me tient responsable d'avoir la foi puisque Dieu fait grâce et que c'est un don de Jésus à la croix qui est mort sur nos péchés, ou est-ce que c'est tout simplement le don de la foi qui est aussi une grâce pour être sauvé. En tout cas, l'idée ici, c'est que c'est un don complet, le don de Dieu au sujet du salut par lequel nous sommes donc rachetés, et c'est par la foi. Ensuite, il y a la foi dans la parole écrite et parlée. Plus nous entendons la parole de Dieu, plus nous l'étudions, plus nous avons confiance et nous la croyons. Alors, souvent, la mesure de notre foi est la mesure de l'exercice de la parole de Dieu dans nos vies. Un exercice dans la prière qui est très intéressant, c'est de prendre les promesses de Dieu et lorsqu'on prie, de s'appuyer par cœur sur les versets. Par exemple, demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Notre prière a besoin de promesses sur lesquelles s'appuyer pour croire que Dieu entend et va exaucer la prière. Il y a la parole prêchée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi essaie de mettre des ondes, en quelque sorte, comme lorsque les radios évangiles essaient de traverser le mur, n'est-ce pas, du communisme. Ce pays, notamment l'URSS, essayait toujours par des ondes de brouiller les émissions évangéliques. Et je crois que l'ennemi essaie toujours de brouiller l'esprit des gens pour qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne soient pas conscients du message de l'évangile. Et la Bible dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Donc on voit que la foi vient de la parole de Dieu. La prière aussi. Il y a une requête des apôtres et des disciples qui est là, je crois, pour nous encourager, que le Seigneur a placé dans l'Évangile, parce que les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Quand nous avons peu de foi, et même il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, un homme qui est venu vers Jésus qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Alors lorsque nous réalisons notre manque de foi, nous pouvons demander à Dieu d'augmenter notre foi. Et puis aussi, l'exercice de la foi permet qu'on ait encore plus de foi. Plus nous vivons par la foi, plus nous avons la foi. Je pense à Georges Muller qui a nourri des centaines d'enfants par la foi sans avoir jamais d'argent pour plus de 3 jours. Il a toujours exercé ce ministère par la foi Et certainement que sa foi n'a cessé de grandir puisqu'il s'appuyait sur les promesses de Dieu et était fortifié dans ce ministère. Nous avons regardé donc la source de la foi et maintenant nous allons regarder les résultats de la foi. Alors rapidement encore, excusez, c'est un survol. La Bible dit que le résultat de la foi, c'est d'abord le salut, c'est par le moyen de la foi que l'on est sauvé. On est justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On est aussi tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est l'adoption. On est pardonné par la foi. Dieu a dit à Jésus, a dit à Paul, une fois converti, qu'il l'enverrait afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. C'est par la prière de la foi qu'on est exaucé. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous avons aussi la liberté dans la prière de nous rapprocher de Dieu avec confiance et par la foi en lui. Nous avons la paix, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et aussi, l'apôtre Pierre parle de la joie ineffable et glorieuse en échange de la foi. Et aussi, nous sommes engagés, une fois que nous sommes sauvés, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot ici, original, a plutôt l'idée de marcher. C'est comme si chaque matin, je me lève, et en principe, je ne reste pas au lit, n'est-ce pas ? Donc, je suis là pour me lever, pour marcher. Et Dieu, dans la journée, alors que je marche par la foi, a des œuvres préparées d'avance. C'est peut-être un témoignage, un sourire à quelqu'un, un téléphone pour exhorter un frère, une sœur, une prière. Il y a toujours des bonnes œuvres préparées d'avance. Dieu ne dort pas. Amen. Dieu est vivant. Et donc, chaque jour, il a quelque chose à nous dire, à nous communiquer. C'est extraordinaire, cela. Et puis la Bible dit que nous devons faire luire notre lumière devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons chaque année ce repas concert dont le but c'est de présenter l'Évangile, pas simplement prêcher, pas simplement par des chants, chanter, mais par aussi une atmosphère fraternelle qui devrait donner goût à ceux qui sont là et dire « Oh, j'aimerais avoir ce que vous avez. » J'ai parlé à quelques personnes à la fin de la réunion hier soir et il y a une jeune fille qui m'a dit comme cela, on voit vraiment que vous êtes unis dans cette église. Ah, ça m'a fait plaisir d'entendre cela. Et on sait d'où ça vient. On sait que c'est l'amour du Seigneur fraternel qui nous unit. Alors, pour terminer, on va regarder quelque chose d'important. Excusez, j'avais oublié de vous dire tout cela sur diapo. Mais on va essayer de réfléchir sur comment la foi grandit-elle en nous. Vous êtes d'accord? Si la foi est la clé de beaucoup de choses, nous pouvons nous poser la question, est-ce que j'exerce la foi correctement? Est-ce que ma foi est grandissante? On peut se poser toutes sortes de questions sur notre vie de la foi. Alors, j'aimerais vous présenter un schéma. Ça y est, je suis lancé dans des schémas. C'est terrible le PowerPoint, hein. Quand on commence à en faire, c'est presque, non, c'est pas une addiction, mais d'accord, ça peut être un piège, j'espère que c'est plutôt une façon d'illustrer, et peut-être, personnellement, je mémorise beaucoup par des schémas, donc peut-être vous êtes pareil. En tout cas, essayons de comprendre ensemble ce que Dieu veut nous dire au sujet de l'affermissement de notre foi, d'accord? Vous me suivez encore? Bon, je continue, hein. Ouais, merci. Ok, la foi. On a déjà vu ensemble que la foi, et nous allons le réaffirmer, est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas fabriquer la foi. Vous êtes d'accord avec moi? La foi vient de l'Esprit Saint. La foi vient de Dieu. C'est un don dont nous pouvons simplement nous humilier devant Dieu et la réclamer devant le Seigneur comme un cadeau. Dieu aime faire des cadeaux. N'attendez pas Noël pour avoir les cadeaux du Seigneur. D'ailleurs, les cadeaux du Seigneur entre nous sont tellement merveilleux et plus beaux que tous les cadeaux du monde qu'on peut recevoir. Hein? Avez-vous la vie éternelle? Avez-vous déjà reçu ce cadeau dans votre vie? Si vous passez Noël sans ce cadeau merveilleux. Quel dommage, parce que Jésus s'est offert à nous pour nous donner la vie éternelle. C'est un don de Dieu, la foi. Et on peut louer le Seigneur parce que nous étions morts dans nos péchés, nous étions esclaves du péché, nous étions même liés au diable par un esprit de rébellion, d'attachement au monde. Mais Dieu, dans son amour, nous a ressuscités avec Christ. Et c'est vraiment lui qui régénère. Un mort ne peut pas ressusciter par lui-même. Un mort est mort parce que nous étions morts dans nos péchés. Mais Christ a trouvé la bonté de nous sauver par la croix du calvaire et aussi par son esprit qui nous a cherchés. Donc la foi est un don de Dieu. En même temps, la foi vient de ce que l'on entend. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer, étudier la parole. Luther disait, bien étudier, c'est bien prier, c'est bien étudier. Plus nous étudions la parole de Dieu dans un esprit de prière, plus nous sommes au pied du Seigneur en train d'être enseignés par le paraclète. Le Seigneur nous a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, orphelins. Alors qu'ils partaient, les apôtres voyaient leur ami, leur prophète, leur sauveur partir. Jésus leur a promis un autre consolateur, qui est le paraclète, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Plus je me rapproche de Dieu, humblement, à genoux, au pied de ma parole, la parole de Christ, je m'entends, que je lis, que je médite, plus le Saint-Esprit m'enseigne les richesses de sa parole. On peut aller dans toutes les écoles bibliques possibles, mais si on n'est pas enseigné par Dieu quelque part, alors on peut passer à côté et recevoir simplement une connaissance intellectuelle. Un autre aspect qui fortifie notre foi, ce sont les prophéties accomplies. Il y a plus de centaines de prophéties concernant la venue de Jésus-Christ dans la Bible et aussi concernant le retour de Jésus-Christ. Je pense notamment, rapidement je vous le lis, en Romains, il me semble, chapitre 1 et verset 2, il est écrit « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures ». On peut d'autant plus croire le Seigneur, d'autant plus croire les Écritures qu'on a vu l'accomplissement des prophéties. Essentiellement, la venue de Jésus, même son lieu de naissance avait été prophétisé. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Même le lieu de naissance du Seigneur Jésus était prophétisé. Sa vie, sa mort, et même on peut penser la date de sa mort. Sa résurrection était proclamée. Son ministère sur la terre, celui qui venait pour délivrer les captifs et les rendre heureux, le libérateur, le sauveur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sa venue était prophétisée et ses promesses divines ont été accomplies en Jésus-Christ. C'est merveilleux cela. Il y a des centaines de prophéties concernant la venue de Jésus. Il y a aussi des centaines de prophéties concernant son retour. Est-ce que notre foi s'alimente de la connaissance de la parole de Dieu et de voir que ce livre a un sceau merveilleux sur lequel on peut s'appuyer sans faillir, qui sont la réalisation des promesses de Dieu? Et je crois aussi personnellement au retour des Juifs en Israël, aux événements mondiaux actuels qui sont sous nos yeux, la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, la venue de l'Antichrist et finalement la conversion entière d'Israël. Oui, le Seigneur est bon. Il a fermé notre foi par la connaissance des Écritures parce qu'il a mis un sceau sur les Écritures qui est l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé. Sans parler des nombreuses prophéties concernant Israël, notamment par Jérémie, et qui ont été réalisées, notamment après la déportation, comme Daniel, après les 70 semaines, a vu que c'était le moment pour le peuple juif de retourner de Babylone en Israël, à Jérusalem. Et puis, il y a la prière. Notre foi est affermie par la prière. Plus nous sommes exaucés, plus nous avons envie de prier, plus nous croyons en un Dieu qui exauce la prière. Spurgeon disait, quand nous avons envie de prier, ce serait vraiment péché de ne pas prier. Mais il a dit, quand nous n'avons pas envie de prier, ce serait péché de continuer de rester dans cet état. En fait, la Bible dit « priez sans cesse ». La Bible nous demande de demander d'avoir la foi. La Bible dit que nous sommes en communion avec Dieu, que nous avons cet libre accès dans les lieux très saints en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est clairement mentionné. Et même la Bible dit que nous avons une assurance de lorsque nous prions que Dieu nous exauce. C'est quand même extraordinaire que Dieu nous dit ceci. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire dans la communion avec lui, un face-à-face avec lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu prend plaisir à nous exaucer. C'est difficile de prier, et même impossible si on n'a pas la foi. Mais lorsqu'on commence à prier, qu'on a la foi que Dieu est en train d'exaucer, c'est difficile de cesser de prier. Si nous croyons vraiment que ce Dieu Tout-Puissant est en train d'écouter notre prière, alors nous n'avons pas envie de cesser de prier, parce que nous avons l'assurance que Dieu est en train d'exaucer la prière que lui-même inspire. Est-ce que Dieu inspire nos prières ? La Bible dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu veut que notre foi soit alimentée par une vie de prière sincère, parce qu'exaucée, qui nous pousse encore plus à prier. Est-ce que nous avons ce ministère ou ce fardeau de la prière ? Luther disait « Aujourd'hui, je vais avoir une très lourde journée. Il va falloir donc que je passe au moins 2 heures dans la prière. » Vous savez, c'était un moine au départ qui était très discipliné dans ses horaires. Est-ce que nous exerçons la vie de prière selon la volonté de Dieu ? La foi augmente lorsque nous voyons Dieu agir et exaucer les prières. C'est pour ça, bien-aimés, pour ceux qui peuvent, venez mardi soir prier. Je plaide non pas pour vous mettre sous un joug, une loi, mais c'est incroyable, des fois on arrive, on est fatigué, et puis on ressort tout joyeux et plein de force. La prière a une force extraordinaire. C'est des hommes et des femmes à genoux devant Dieu qui ont pu conquérir le monde par la prière. Pas par leur force, mais par la prière. Alors est-ce que votre vie de prière est conséquente ? On raconte l'histoire en Afrique d'un chemin qui a mené un frère de la brousse à l'église. Et un jour, le pasteur est allé le voir et dit « Mon frère, j'ai remarqué que l'herbe a repoussé sur ton chemin. Tu ne viens plus prier à l'église depuis quelque temps et l'herbe a repoussé. Il faudrait peut-être reprendre le chemin et tracer ce chemin et être fidèle à l'église. » Alors chacun de nous, nous avons cette responsabilité de prendre le temps de prier, sachant que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Ce n'est pas celle du passé, ce n'est pas celle de peut-être demain, mais c'est aujourd'hui que nous devons apprendre à prier. Il y a aussi l'engagement. Alors, j'ai trouvé un peu de difficulté là, à trouver une illustration, mais finalement, j'ai mis celle-là parce qu'il me semble que l'engagement, le ministère, le service se fait beaucoup au travers de l'église locale. On peut être un missionnaire seul quelque part en brousse ou en train, mais on est envoyé par une église, on est envoyé par des frères et sœurs ou par une mission ou envoyé par Dieu. En tout cas, Dieu veut que l'on serve et on voit que plus on sert au travers de l'église locale, plus Dieu bénit et plus Dieu nous rend utile. Parce que ce que Dieu veut, et on voit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors l'idée c'est que dans l'engagement, Dieu bénit. Et je ne savais pas trop comment trouver un verset qui illustre cela. Finalement, avec l'aide de Luc, mon fils, il m'a donné un verset finalement qui m'a paru intéressant. Mais un premier dit, car on donnera celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est la parabole des talents. Dieu nous a donné des dons spirituels. Chacun d'entre nous ici, si on est un enfant de Dieu, on a un don, au moins un don. Peut-être plusieurs. Et la Bible dit qu'on est dans un corps, que Jésus-Christ en est la tête, et qu'il y a une place pour chaque membre avec son don. Et donc Dieu désire que, puisque nous sommes faits de l'Église de membres vivants, de pierres vivantes pour l'édifice, mais dans la comparaison du corps, que chacun a une place bien précise. Et quelque part, lorsque cette place est trouvée, parce que dirigée par le Seigneur, dans l'église locale, et c'est certainement l'Esprit-Saint qui dirige l'exercice des dons et des compétences dans l'église, et c'est ce qui fait la joie du Seigneur. C'est lui qui doit diriger cela. Eh bien, l'exercice du don fait que la foi augmente. Si on est à sa place, on est heureux, on est épanoui et on est enthousiaste pour le Seigneur. On a envie encore plus de servir le Seigneur parce qu'on est utilisé selon ses dons, par sa grâce, et on désire grandir dans le Seigneur. Plus on s'engage, plus on exerce sa foi dans le ministère. Alors, justement, quand on l'exerce, il y a des obstacles à franchir. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Il peut y avoir des frictions, même entre nous parfois. Il peut y avoir des défis matériels, des défis d'organisation, des défis spirituels, des comportements intérieurs de nous-mêmes où on se voit incapable, où on se voit tellement faible et on crie vers le Seigneur. Mais le fait de s'engager, le fait de s'engager dans le ministère, le service du Seigneur, augmente notre foi parce que cet engagement exerce notre foi. Plus vous allez servir le Seigneur, plus votre foi va s'exercer, plus votre foi va augmenter. Alors ça ne veut pas dire que ce sera facile, qu'il n'y aura pas des obstacles à franchir. Mais celui qui reste assis, qui est passif, où est donc sa foi? Alors dans la mesure de nos dons, capacités, on se comprend. Mais le verset, donc, je voudrais souligner aussi, c'est 1 Timothée 3,13, je pense que c'est un bon rapport avec cela, car ceux, à propos des diacres, qui remplissent convenablement leur ministère, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. L'exercice du ministère de diacre, lorsqu'il est fait consciencieusement, en gardant la saine doctrine, amène une grande assurance dans la foi. Or, nous avons besoin dans l'Église de frères et sœurs, de diacres et de diaconesses qui ont l'assurance de la foi parce qu'ils exercent, elles exercent, un ministère qui plaît à Dieu et qui renforce la doctrine, qui renforce le témoignage de l'Église à la gloire de Jésus-Christ. Amen. J'espère qu'on entend tout cela clairement. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et puis, bon, c'est presque terminé. Hein. Il y a les épreuves. Votre épreuve, c'est encore de m'écouter, je sais. Mais c'est bientôt fini. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Les épreuves, c'est Pierre qui parle. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il était écrit cela, ça a été écrit dans un temps de persécution. Imaginez le monde aujourd'hui, les politiciens avec tous leurs leur apparat, allez, soyons gentils, et leur superficie, comportement, on va dire loin du Seigneur, d'accord? On va résumer comme ça. Peu importe, hein, gauche et droite, de toute façon, aujourd'hui, il y a des gens de droite qui sont à gauche, de gauche qui sont à droite, le centre qui ne sait pas où il est, donc on est tous, on ne sait plus où est la droite et la gauche, on ne sait plus où on en est. Bon. Mais ce n'est pas l'objet, c'est pas l'objet. L'idée, c'est que ces gens-là, qui ont tous les privilèges d'avions particuliers, de chauffeurs particuliers, tout un privilège d'honneur, et pourquoi pas? On doit honorer les autorités, ça ne me dérange pas cela. On les met en avant, on ne parle que d'eux. Et puis il y a ceux des frères et sœurs qui dans le monde, pauvres peut-être, dénudés, sont en train de souffrir pour le Seigneur, peut-être même de mourir pour le Seigneur. Leur foi est éprouvée, plus précieuse que l'or. Eux sont beaucoup plus riches que ceux qui apparemment sont riches dans ce monde, parce qu'ils ont une foi précieuse dans le Seigneur qui est même capable pour eux de leur faire traverser les temps de la persécution. Alors tout est relatif. Ce qu'on voit dans le monde, ce qui apparaît beau et fort, intelligent et riche, devant Dieu, quelle est la plus grande richesse? C'est ta foi, mon frère et sœur. Cette foi que tu as ce matin, c'est de l'or en barre. On n'a pas besoin de vouloir s'enrichir en investissant, n'est-ce pas, et en s'enrichissant. Nous avons besoin d'enrichir notre foi. parce que c'est ce qui va demeurer sur cette terre et dans l'éternité. C'est ça qui est le plus grand don précieux du Seigneur, la foi. Cette foi qui a été donnée une fois pour toutes. Alors, ayons foi lorsqu'on traverse l'épreuve, même si Jacques dit que c'est le test de notre foi. Quelque part, louons le Seigneur, que nos épreuves nous façonnent à l'image de Jésus-Christ. Et peut-être qu'on aurait été tellement déçus si on n'avait pas eu des épreuves dans la vie, alors qu'on va entrer dans le ciel, d'arriver comme un bloc non sanctifié, non purifié, non transformé. Et les épreuves sont le burin de Dieu dans nos vies pour de cette masse de granit que nous sommes, n'est-ce pas, et dure parfois dans nos cœurs et nos pensées pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu parce qu'il nous prépare une place au ciel. Et lorsqu'il va nous accueillir, eh bien, quelque part, on aurait été transformé par les épreuves à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Allez, un dernier point, puis je vous laisse. C'est vraiment le dernier point, d'accord? Vous me croyez, là? Il y a les héros de la foi. Notre foi augmente lorsque nous observons les héros de la foi, les hommes et les femmes de Dieu. Il y a tout le chapitre d'Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi qu'Abraham quitta, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi, d'accord? Lisez cela. Puis à la fin, c'est même par la foi que certains ont été sciés, torturés. La foi peut mener loin. Mais ces héros de la foi nous parlent encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux inconnu a dit en Hébreux chapitre 12 et verset 1 que nous sommes comme dans un stade et nous courons avec persévérance parce qu'il y a des gens qui ont laissé un témoignage tellement fort qui parle encore. C'est tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et nous avons besoin d'être encouragés par des modèles de la foi. Abraham a eu une vie relativement, paisible, cet homme-là. Mais c'est le père de la foi. Et quand Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils, ce matin-là, il n'a pas fait la grâce matinée, il s'est levé de bonne heure, il a pris tout ce qu'il fallait pour aller sacrifier son fils par une obéissance à Dieu. Un modèle de foi, mes amis, mais parfait. Bien sûr. Le modèle parfait, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, hein, dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Toujours ma nourriture est de faire la volonté de mon Dieu, de mon Père. Dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il a dit, ce n'est pas moi qui me suis envoyé, c'est mon Père. Et tout ce que je dis, c'est mon Père qui me dit de le dire. Tout ce que je fais, c'est mon Père, je paraphrase, c'est mon Père qui me dit de le faire. Mais ces patriarches de l'Ancien Testament, extraordinaires, n'est-ce pas, nous ont, dans l'Ancien Testament, ont fortifié notre foi. Mais il y a les héros, évidemment, du Nouveau Testament, les apôtres, Pierre, Jean, Paul et tous les apôtres, ceux qui ont été prêts à mourir martyrs, et tous les pères de l'Église et l'Église primitive, dont le sang était la semence de l'Église. Tous ces gens-là ont marqué leur temps, et l'Évangile s'est propagé de façon extraordinaire parce qu'ils avaient la foi et ils avaient des modèles. Et aussi le modèle du Seigneur en tête. Et puis au travers de l'histoire, les héros de la foi, de l'Église, les martyrs, les missionnaires. Je suis heureux récemment, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait été appelé et qu'il avait été bouleversé par deux ou trois biographies qui sont aussi mes biographies préférées. Charles Studd, George Muller, Adoniram Johnson. Vous ne pouvez pas lire ces biographies sans rester en restant la même personne, c'est impossible. Dieu nous a laissé des modèles à suivre. Corentin Boone, prisonnière dans un camp de prisonniers, n'est-ce pas, en Allemagne. Comment elle a traversé cela? Bon, la liste serait longue. Mais est-ce que nous avons une liste? Est-ce que nous sommes nourris dans notre foi par ces héros passés et d'aujourd'hui? Parce que les héros d'aujourd'hui existent aussi. Ce sont tous ceux pour qui on prie, là, qui sont en train de mourir pour Christ. Ce sont les frères et sœurs de l'Église locale. C'est chacun de vous ici. Chacun de nous, nous pouvons être une source de bénédiction et d'affermissement de foi pour les autres. On peut être aussi une occasion de chute. Mais soyons des modèles de foi pour fortifier et affermir la foi. Comme Jésus a dit à Pierre, et toi, quand tu seras affermi, affermis la foi des autres. Ainsi, Dieu nous demande d'affermir notre foi, de croire que c'est un don, que cette foi s'affermit par la parole de Dieu, par les prophéties accomplies, par la prière, l'engagement, les épreuves, les héros de la foi. Et Dieu nous laisse maintenant à la fois un avertissement et une promesse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Et aussi, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, je vous laisse ces questions que je me suis permis d'écrire ici comme un défi personnel pour chacun de nous. Avons-nous vraiment foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ ? Quelle est la mesure de foi qui nous pousse à vivre aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un domaine où notre foi n'est pas vraiment exercée parce que Dieu n'intervient pas dans ce domaine ? Est-ce que nous croyons vraiment aux promesses de la parole de Dieu ? Heureusement que nous avons ce livre. Heureusement que nous nous appuyons sur ces promesses, n'est-ce pas ? Qui sont immuables. Si Satan veut nous ébranler, la promesse de Dieu est oui. Amen. Et dans quel domaine notre foi a-t-elle besoin de s'exercer ? Avec la vie et l'âge, il y a toujours des nouveaux défis avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à l'exercer par la foi pour glorifier notre Dieu ? Car l'incrédulité, reconnaissons-le dans nos vies, est un réel péché. Mais la foi en Dieu lui plaît, lui est agréable et l'honore et le glorifie. Prions, s'il vous plaît. Ô Seigneur éternel, merci de ta parole qui nous enrichit. Nous avons besoin de grandir dans la foi. Merci de la patience de mes frères et sœurs à écouter ce message et merci aussi de nous donner la grâce de le mettre en pratique. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux fermés en communion avec Dieu, peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi, je n'ai pas encore l'assurance du salut. Je n'ai pas encore cette foi qui sauve. » Alors je vous demanderai juste un instant de lever la main et par ce geste, si c'est votre cas, moi je ne vous connais pas, j'aimerais juste priez pour vous, par ces mains levées, vous demandez de l'aide dans la prière et peut-être un guide pour vous aider. Donc, pourriez-vous lever la main si quelqu'un ici ne connaît pas encore le Seigneur ? Et je prierai pour vous. Oui, je la vois, merci. Alors, peut-être y a-t-il un domaine dans notre vie où nous avons besoin d'exercer la foi ? C'est chacun de nous devant Dieu maintenant, par ces moments de sa présence. Soyons humbles, frères et sœurs. Il me semble parfois que nous sommes tellement des orgueilleux, qui est le contraire de l'humilité qui reçoit la foi. Soyons humbles, reconnaissant notre domaine de foi, moi-même le premier. Y a-t-il un domaine où votre foi n'a pas exercé une confiance profonde ou renouvelée dans le Seigneur ? Alors priez à l'instant et demandez au Seigneur de vous aider. Chacun de nous, on a des défis. Soyons pas orgueilleux. On a des montagnes à franchir. D'où me viendra le secours ? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors là où vous êtes, priez dans votre cœur. Prions que le Seigneur nous aide dans tel ou tel aspect de notre vie pour le glorifier. Seigneur, je te prie pour cette personne qui a levé la main, qui désire avoir la foi pour être sauvée. Merci de ce que la foi est un don, mais notre part, c'est aussi avoir confiance dans ta parole. Et je te prie, Père, de donner cette foi à ce jeune homme au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour chacun de nous de venir au secours de notre incrédulité et dans ta bonté de nous aider à exercer la foi dans les domaines de notre vie encore cachés peut-être. Ou n'ont donné entièrement au Seigneur. Père, toi qui sais tout, tu vis avec nous, tu nous aimes, tu nous accompagnes, et parfois nous te résistons. Pardonne-nous, Seigneur. Accompagne-nous dans cette journée, permets que notre vie se rapproche de toi, nos cœurs, nos pensées, et nous t'en aurons toute la gloire. Amen.